Louis Mullem, la philanthropophagie. Il est hors de doute que les meilleures salaisons sont les viandes d'Australie. Il n'y eut de mémoire d'homme nul aliment plus savoureusement économique sur la table du pauvre. Soutenu par ses 50 ans de succès, l'affirmation s'est inscrite au verso de toute gazette. Elle s'est étalé à la fresque de long de tout, mur disponible. Elle a flamboyé en traits de gaz sur l'ennemi de toutes les capitales habitées. Le cri de réclame est ainsi devenu proverbe, enguirlandant de gloire et de popularité la marque de fabrique, le fond de baril où se découpe la face maigre, le toupet panache, les favoris blancs de sel, le regard pensivement outre-marin de Jonathan Gulf, l'inventeur, le propagandiste. L'âme, le moi, de cet inouï commerce de conserve, réputé le plus aurifère trafic de tous les marchés contemporains. À préciser les infinis millions écrémés par Jonathan sur l'article où noircissait de chiffres plusieurs de ses veillets, mais peu récréative, une telle algèbre risquait aussi de décourager nombre d'individus en peine de réaliser même un dollar, bien qu'à l'aide d'expédients d'un ordre peut-être plus intellectuel que celui de l'alimentation en gros. Il sera donc plus attrayant de parler tout de suite du sujet de sa présente. Oui, plus attrayant de s'occuper immédiatement de l'ex-Madame Gulf Fitzgerald et de son entrée sensationnelle à la tribune oratoire, devant l'élégant et nombreux public de la société de tempérance. Réduction jusqu'à présent, compte tenu des plastiques de la maman, l'exubérante Madame Fitzgerald, qui prend place comme porte-respect derrière elle sur l'estrade, Madame Mary Gulf déferle encore aujourd'hui tous les attraits d'une jeune beauté de 25 ans à 32, sa stature haute, sa gorge prodigue, sa blanche épaule, sa souplesse dans le corset sont d'une déesse yankee qu'on rêverait de loger dans la conception d'un Olympe américain. La littérature des États-Unis est en effet trop dépourvue de ces gracieux moyens d'idéalisation que les vieux mondes empruntent à leurs océans, Testament, Nirvana et autres théogonies respectives. Le projet d'une mythologie à la Barnum mériterait d'être mis à l'étude. Il y a là bien des ressources, telles que Franklin comme aiguilleur de la foudre, avec l'Apollonien Edison à l'humeur de soleil électrique, et pour Minerve, la rigide, Madame Bichard-Stowe, douée des facultés de pêche, l'emploi des Vénus, pouvant-elle galamment être laissée disponible jusqu'à l'apparition de Madame Mary Gulf devant la société de tempérance. Mais, sans plus d'emprunt à l'hellénisme, les nombreux reporters présents dans l'amphithéâtre peuvent noter que la ci-devant Mary Gulf a les yeux du plus beau frais de l'océan, une chevelure incendiairement blonde, des lèvres telles que des roses de printemps où fondrait en perles de lumière un peu de neige matinale. Le tout avivé par une expression spirituelle d'où la parole semble hâtée de s'envoler, et par cette jolie désinvolture mondaine qui lui permet de sucrer, du calme le mieux joué, le conférencier Verdeau. On s'explique donc l'empressement de la gentlée pour cette réunion trimestrielle, et l'on devine l'extrême curiosité qui s'agite derrière les lorgnettes brusquées, braquées par la foule des robes de dentelle et des habits noirs. Que Que dira-t-elle? D'où lui vient le caprice, étonnamment imprévu, de s'exhiber ainsi dans l'emploi des lecturers? Quels sont ses prétendus souvenirs de voyage inscrits au programme de la séance? Saura-t-on les vraies causes du récent divorce de Mary avec le richissime et trop vieux Jonathan, en admettant qu'une sénilité si disparate ne soit pas une cause suffisamment légale de séparation? Saura-t-on pourquoi la resplendissante patricienne est sur le point de se remarier avec Strim & Co., une maison seulement débutante dans la concurrence des œufs salés? Et quoi? Le mièvre et blondasse petit Robinson, Strim, assis là-bas, tout faux col, à l'avant-scène. Oui, lui-même, le pauvre ami. Pas possible. Le brouhaha, grandissant de ses commentaires, s'arrête net. Madame Gulf s'apprête à parler. Elle parle, et vraiment du plus joli timbre, brillant de rire. Les reporters n'ont que le temps de saisir au vol la substance des télégrammes. L'excursion dont l'oratrice désire faire le récit s'accomplissait l'année dernière, explique-t-elle, en la compagnie d'un très respectable vieux gentleman qu'on ne nommera pas afin d'épargner sa modestie, mais qui, l'on ne saurait le méconnaître, s'est acquis par d'incessantes importations de victoires exotiques à une indestructible notoriété dans tout l'univers commercial. Égayé, le public jette un coup d'œil unanime vers le fond de la salle. Une colonnette dissimule la frêle identité du caduc M. Gulf, dont il ne déborde que les points de favoris en ton xalin, à peu près d'hiéroglyphe moral des écoliers barbouillant de mémoire de type abrégé de Jonathan. On s'était embarqué, continue Madame Gulf, sur le magnifique steamer commandant la flottille que ce notable expédie annuellement vers sa propriété d'exploration, immense à territoire des Polynésies, plus ou moins australienne, située aux dernières limites du plus extrême Occident. Il serait agréable à coup sûr d'évoquer dès à présent par une description ces terres vierges à peine connues des géographes, ces somptueux océans d'herbage où le bétail est si démocratiquement conservable prodigue son innocente et luxuriante fécondité. Mais pour plus de clarté, la conférencière doit émettre au préalable, sur les usages de ce pays, quelques considérations d'une nature, pour ainsi dire, sociale, qu'à défaut de toute compétence technique, elle effleurera du geste avec le plus de brièveté désirable, bien qu'il s'agisse à la vérité d'une méthode de législation tout à fait hardie et du caractère d'originalité le plus marqué. Devenu propriétaire exclusif de ce populaire archipel, le notable en question, mon Dieu, qu'on me permette de persister à le désigner de la sorte, jette l'oratrice au sourire de la salle, dans une parenthèse ponctuée par l'absorption de 2 cuillerées d'eau sucrée. Le notable susdit se propose de faire cadeau de sa colonie au gouvernement de l'Union, espérant que, par ce don fastueux, il hâtera l'accomplissement du plus ardent de ses désirs, l'élection à la présidence des États-Unis. Oh, oh, silence, écoutez. La brusque révélation de cette candidature suscite une jovialité décidée, tandis que vexation ou bouleversement et pointe de barbe de l'éminent John Gulf semble la proie d'une espèce de crise. C'est en raison, justement, de ces visées présidentielles, poursuit l'oratrice, qu'il convient d'examiner un instant le point de vue politique indiqué tout à l'heure. Seigneur et maître de plusieurs millions de dames, le grand négociant dut les assujettir aux freins d'une constitution. Sa souveraineté ne pouvait se maintenir qu'à ce prix, mais au premier aspect, la tâche se hérissait de difficultés singulières. Les indigènes cédaient résolument, avec une égale passion à deux courants bien opposés. Ils cultivaient en même temps la civilisation et l'anthropophagie. Ils recherchaient les raffinements les plus délicats de l'existence moderne et s'obstinaient, par goût non moins que par tradition, au vieux cannibalisme des aïeux. L'accord de pareil contraste ne pouvait se réaliser que par un extraordinaire génie législatif dont, heureusement, le nouveau monarque, assisté d'un habile conseil d'actionnaires, se trouvait pourvu. Simplement, d'ailleurs, il procéda de ce principe que les meilleures lois sont celles qui s'adaptent aux tendances et préjugés des peuples qui les subissent. On promulgua dans ce sens un code pénal et civil composé d'un petit nombre d'articles rationnels et décisifs. Et les insulaires acquirent bientôt l'heureuse certitude que ce régime, plutôt régulateur que réformiste, avait pour but d'arrêter le développement de leurs instincts de race. Et l'oratrice, dont la bonne humeur semble chatouillée d'un coup d'épingle d'ironie, permet d'esquisser rapidement au hasard de souvenirs ses curiosités organiques et leur application dans les mœurs. Assurer l'approvisionnement autophagique et national, telle était, poursuit-elle, la préoccupation dominante du législateur. En conséquence, tout indigène était tenu de mourir pour son pays, et cette clause, prise à la lettre, n'affectait pas, comme ailleurs, un sens de détachement et de vaine protestation platonique. On mourait mangeable à 40 ans révolus, époque où, dans la pleine maturité des chairs, l'âme s'éteint volontiers aux illusions. L'inutile fardeau de la vieillesse fut ainsi supprimé, sauf pour la caste des administrateurs chargés du souci gouvernemental, sorte d'aristocratie sénatoriale formée, cela va de soi, par le notable et ses associés. On prit soin, toutefois, d'ôter toute apparence d'arbitraire à ces macabres destinées des masses. On les revêtit d'une surface de légalité grâce aux tribunaux devant lesquels les insulaires, sans exception, étaient astreints à comparaître à tour de rôle et jugés coupables sur n'importe quel méfait, petit ou grand, encouraient invariablement la sentence capitale, mais par pure forme, avec exécution ajournée jusqu'à l'âge comestible. Le délit le plus souvent imputé devant ces juridictions était celui de jalousie ou d'opposition contre les promiscuités nécessaires. Les crimes de cette nature se décrétaient de haute trahison, car le Code civil avait placé le mariage à l'abri de toute entrave morale et de toute police contractuelle ou restrictive. Sauf empêchement physiologique, la nubilité déterminait en toute rencontre l'exercice de l'union conjugale. Non seulement libre, mais strictement obligatoire, il était interdit aux divers sexes en présence de ne pas aimer, séance tenante. Les promenades, les réunions de théâtre et de café-concert, les bals et fêtes publiques, etc., fournissaient aux représentants de l'autorité l'occasion d'imposer la pratique de ce rite, d'ailleurs amusant. On assurait ainsi l'accroissement du populaire, résultat recherché avec plus ou moins de désintéressement et de raison par les économistes des centres industriels ordinaires, mais vraiment indispensable dans les régions cannibales où le prolétariat figure un objet immédiat de consommation. Et au prix de quelques charges dans ce genre anodin, le peuple coulait une existence aisée. Il n'était guère tenu qu'à pulluler bibliquement au profit de la sustentation concitoyenne. L'idéal des plus récents socialismes semblait dépassé. Les femmes seulement occupées de toilettes appréciaient comme ils le méritaient leur joli privilège d'inconstance permise et sans remords. Les hommes relevaient leurs loisirs par d'intelligentes distinctions et se rachetaient du labeur forcé des autres plèbes par le paiement final, en nature, de leurs dettes à l'État. Ainsi, deux fois le jour, à des banquets gratuits, le public se livrait à des dégustations de contemporains qu'accommodaient savamment les cuisiniers officiels. Tout contribuable apportait à ces agapes le supplément d'aromates disposés, destinés à les rendre plus tard lui-même digestifs, une sorte d'anticipation d'embaumement. Et l'on ne saurait trop dire à quel point la sévère interdiction ordonnée dans ce but des alcools, des nicotines et autres dépravations empoisonnées augmentait par contre-coup les chances d'hygiène et de mortalité générale. De vifs applaudissements montrèrent le bon effet produit par cette observation sur les membres de la société de tempérance. Il s'admettait encore, poursuivit Madame Gulf, beaucoup d'autres opinions anthropophagiques également propres à fortifier et viriliser les esprits. Le duel à mort, par exemple, était inévitable à la moindre injure. Le suicide passait pour la conséquence instantanément exigible de toute ostentation de pessimisme, de même qu'il convenait, en certains cas, de savoir mourir de rire ou mourir de plaisir, comme on disait. Les comédiens eux-mêmes, mettant cette outrance de sincérité dans leur métier, étaient toujours prêts à succomber pour de bon parmi les péripéties et fins de drame, etc., etc. Ces catégories de prématurés décès alimentaient le stock des primeurs. Quant à la classe moyenne, elle atteignait sans trop de regrets la limite d'une carrière comblée d'insouciance et de paresse. L'exécution, il est vrai, s'opérait d'une façon persuasive et non tortionnaire, dans les salles réservées, pendant les séances de musique, les cérémonies religieuses et autres prétextes de réunion, au milieu de l'indifférence polie qu'avait créée l'habitude. La sortie s'interdisait à ceux dont la funèbre situation judiciaire arrivait à échéance. Puis une espèce de guillotine rôtissoire, ingénieusement marcotisée, les transportait directement de la vie pour soi dans les vivres pour tous. Mais quelles étaient les cérémonies religieuses dont il vient d'être parlé? Cette question surexcite, on le conçoit, l'intérêt de la société de tempérance, en grande partie orthodoxe. Ainsi que les autres statuts, explique Madame Gulf, le culte et le dogmatisme des insulaires s'inspiraient de leurs inclinations à la fois métaphysiques et carnivores. Au fronton des temples, le novateur avait fait graver ces grandes paroles de l'Écriture. « Il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Psaume 95, 6. Et encore, « Ta face est un rassasiement de joie. » Psaume 16. Ensuite de quoi, les saints exercices ne se terminaient pas comme ailleurs, par de fictives et poétiques oblations transsubstantielles. Non. Les vrais croyants ambitionnaient de s'étendre sur la nappe de l'autel expiatoire pour la nourriture spirituelle autant qu'effective de la congrégation. Les sentiments extatiques et carnassiers de l'Église nationale, le besoin de manger son Dieu, s'affirmait ainsi dans les formes d'une théophilanthropophagie réelle. Et de quelle ferveur le notable Lloyd Cossian eût dévoué sa propre personne à ce genre d'édification, si son vieil état de maigreur en avait fait une hostie pas trop insignifiante. Les frémissements de barbe de Jonathan soulèvent à ce moment des rires qu'augmente encore l'onction prédicatrice affectée par Madame Gulf. « Faute d'être propitiatoire par lui-même, soupire-t-elle. L'apôtre recommandait, du moins, le grand acte de foi parmi ses proches, et l'on peut assurer qu'il ne ménagea pas les supplications pour y décider certaines personnes de sa famille, douées d'un embonpoint plus liturgique, par exemple sa belle-mère. Une ovation éclate sur ces mots, en l'honneur de la florissante Madame Fitzgerald, attestant par une pantomime assez narquoise l'exactitude des détails intimes mentionnés par la fille. Mais rien ne cadrait mieux avec ses idées philanthropicides, reprend Madame Gulf, que la façon dont il fut convenu de diriger les choses, de la guerre. Hélas, oui, malgré son isolement océanien, malgré sa facile destinée communiste, la jeunesse mâle insulaire s'enfiévrait périodiquement, comme les autres peuples, d'héroïques ardeurs de la bataille. Le législateur avait tenu compte de ses propensions belliqueuses, avec d'autant plus de logique, semble-t-il, qu'au lieu d'être, comme partout ailleurs, un motif de tuerie stérile, elle fournissait à cette Polynésie des ressources incalculables de ravitaillement. En conséquence, on octroyait au militarisme une île entière avec terrain approprié et trois genres de travaux de fortification. Les amateurs de massacres légaux s'enroulaient à leur choix dans l'un des deux corps d'armée dont le choc devait avoir lieu chaque année pendant les bonnes conditions climatériques du printemps. À cette fin, les journaux attisaient la haine que les différences d'uniformes fomentaient entre les régiments. On excitait même à des luttes anticipées les fantassins de costumes divers qui se rencontraient par hasard dans les rues. Les généraux entretenaient la fureur par d'homériques défis échangés dans les gazettes. On ne tolérait d'ailleurs aucune jactance inefficace. Les calculateurs de stratégie, les inventeurs d'engins de destruction devaient concourir individuellement à l'application de leurs plans. D'autant mieux accueillis qu'ils étaient plus meurtriers. Les aspirations sentimentales vers le dévouement charitable ou religieux, décelées par la police chez les individus des deux sexes, conduisaient à l'immatriculation rigoureuse dans les cadres des aumôneries et des ambulances. Les déclamations en l'air n'étaient pas de mise. Tout ce qui vit, tout ce qui meurt, tout ce qui bénéficie, tout ce qui s'amuse, enfin, des misères de la guerre, participait inexorablement au combat annuel. Les proclamations suprêmes des généralissimes ouvraient l'ère décisive. L'embarquement se hâtait dans le fracas des hurrahs patriotiques et les opérations s'engageaient dès l'arrivée, sans autre méthode que l'indistincte entretuerie de tous les belligérants. La seule gloire reconnue comme utile était d'être mort. Le Te Deum subséquent ne solennisait que des cadavres. C'était une guerre qui perd gagne. Et, différemment du reste du globe, on dédaignait les rares survivants, comme des vaincus, jusqu'à leur revanche à la prochaine affaire. Contrairement encore aux suites usitées dans les pays à régime culinaire moins raisonné, les sanglantes journées procuraient aux indigènes une nouvelle phase d'abondance et de calme. Mary Golf accompagne ces notations rapides d'un jeu de sourire où s'accumule évidemment un excès de sarcasme. Elle continue néanmoins placide. Quelques années de ce système et deux ou trois campagnes plus particulièrement fructueuses achevèrent, dit-elle, de porter au point maximum la richesse budgétaire et les satisfactions civilisées des indigènes. Le notable négociant, l'illustre fondateur de ce bel état de choses, crut le moment arrivé de faire triompher son vœu de présidence en préparant l'annexion de ces territoires dont l'organisation lui semblait digne d'être proposée comme exemple au reste de la République. Il joignait cette préoccupation aux devoirs accoutumés de son trafic lorsqu'il entreprit l'année dernière l'excursion dont l'oratrice doit enfin se décider à parler. L'attention du public devient intense. Les favoris de John Golf manifestent tout ce que ce genre d'ornement, séparé du reste de la figure, peut exprimer d'impatience et d'irritation. Madame Golf, pourtant, reste un peu méditante, comme alarmée par le côté scabreux de ce qui lui reste à dire. Oh, son hésitation est exquise à consulter sa montre, tenue de la même main qui remue le verre d'eau sucrée. « L'heure est peut-être trop avancée, continue-t-elle, pour lui permettre un récit complet. Il faudra s'en tenir au court épisode par lequel se termine l'expédition, mais qui, par chance, et comme on a pu le voir, la caractérise tout entière. La flottille avait ancré devant une splendide plaine d'herbes jetées dans une entaille de forêt vierge. Madame Golf eut le caprice d'aller déjeuner sur la verdure avec le notable et ses associés, tandis que le personnel de l'équipage roulait des tonnes le long de la rive, où s'avançait le rire sur l'épaule, en quête de pacotille dans l'intérieur du pays. La collation arrosée de champagne fut très animée, lorsque bientôt des fracas de fusillades retentirent par place dans le lointain des bois. La guerre annuelle, sans doute, oh, c'est sans danger, avait prétendu le grand négociant. Le dessert s'achève. Le notable et compagnie s'éparpillent, le cigare allumé. Madame Golf, un instant, restait seule, rêveuse, à la magnificence du paysage, quand brusquement surgit près d'elle un autochtone arrivé rampant sur les ronces, un superbe spécimen des races locales, brièvement vêtu de quelques colliers de perles. L'étrangère et sa longue toison blonde, alors dénouée, dans l'or du ciel éblouirent ce primitif d'une stupeur d'admiration. Il restait sur ses genoux, les mains jointes, le poitrail haletant, la bouche pâmée, l'œil en feu. L'atmosphère tropicale charriait son grand souffle de passion. Un peintre, profilant la scène, lui fait s'envoler une feuille de vigne. Péril grave, aussitôt conjuré. Les hommes du bord terrasse l'intrus. Madame Golf fuit vers le navire. Elle est terrifiée, mais qui sait, peut-être avec un peu de nuance, d'émotion. Le pauvre garçon, Quel amour subit, ingénu, sans déguisement. Au retour, après 3 mois dans le port de New York, Madame Gulf s'attardait à son dernier bout de toilette, malgré le tumulte du déchargement, et franchissait le pont déjà tout encombré, lorsqu'une barrique tombée du treuil éclatait, laissant voir, hasard féroce, spectacle affreux, l'indigène, le beau sauvage au collier de perles, toujours à genoux, toujours dans son attitude fervente, extatique, égaré, halluciné, d'amour, le pauvre garçon, oui, lui-même, tel qu'on l'avait plongé directement, là-bas, dans une saumure, et debout, avec le délicieux air impertinent du succès conquis, devant l'âpre moquerie du Two New York, devant le reportage impatient d'indiscrétion télégraphique, Madame Gulf jette le mot de la fin, le trait mortel qu'elle tient en réserve. Elle relit, elle redit cette légende au prospectus qui prend maintenant une signification de déchirante ironie. Cette formule de puffisme qui scalpe à jamais Jonathan de sa vieille auréole de nourrisseur et met la suprématie de l'article entre les mains de la maison Robinson Stream. Cette éhontée affirmation gastronomique qui renverse pour toujours le Gulf & Co. de ses velléités de présidence pour le vautrer dans l'ignominie d'une notoriété d'empoisonneur, philanthropophage et d'exploiteur social. Encore une fois, par-dessus le retentissement d'acclamations pleines de rires et de huées, elle répète l'infâme refrain évocateur maintenant de spectraux en doubage. Les meilleures salaisons sont les viandes d'Australie. Les bravos redoublent, énormément gais, car la marque de fabrique, la silhouette si connue, le toupet panache et les deux favoris voltigent un instant à travers la salle, projetés avec furie par le clown occasionnel, l'habile comparse qui, derrière le pilier de l'amphithéâtre, avait si ravissamment postiché le simili Jonathan.